Bonjour mes frères et mes sœurs. Pouvez-vous définir la Trinité? C'est quoi? C'est qui? Qui est Dieu? Nous avons parlé par le passé à plusieurs reprises de l'identité de l'éternel Dieu. Qui est le Christ? De même, nous avons parlé du Christ. Du reste, j'ai fait 2 ou 3 sermons sur l'identité du Christ. Mais je pense que rarement j'ai parlé de la troisième personne de la divinité, comme on appelle, alors qu'il ne s'agit pas d'une troisième personne, qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, mais d'une façon générale, les gens pensent que le Saint-Esprit est une troisième personne. Aujourd'hui, dans le sermon que je vais faire, je vais vous prouver que le Saint-Esprit n'est pas un individu, n'est pas un être, une troisième personne dans la divinité, que le Saint-Esprit est tout simplement et avec force l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ. Ça sera difficile en ce qui concerne le monde entier, car d'une façon générale, les chrétiens, bien qu'ils soient tout à fait divisés aujourd'hui, croient presque unanimement que le Saint-Esprit est une troisième personne dans la famille divine. Quelles sont les preuves que vous en trouvez? Eh bien, je vais vous dire. Il y a quelques années, j'étais en France, je voyageais. Ensuite, au retour aux États-Unis, j'étais dans un hôtel. Et vous savez, aux États-Unis, je ne sais pas ailleurs, dans beaucoup d'hôtels, vous avez des Bibles dans la chambre même que vous consultez. Alors, j'avais le temps, j'ai regardé la Bible qui était posée là, et j'ai lu la préface. Vous savez, ça m'a étonné parce que je n'avais jamais fait ça avant. Tout d'un coup, dans la préface, je vois que la Trinité est la doctrine la plus acceptée dans ce que nous appelons le christianisme. Étrange. Le christianisme est divisé aujourd'hui en plusieurs sectes et confessions, et ils ne sont pas toujours d'accord à tous les points de vue, mais parce que la Trinité est ce que unit toutes ces sectes, dénominations, confessions, croyances qu'on appelle chrétiennes. Alors, c'est étrange, mais je vous pose la question, pourquoi est-ce que vraiment une doctrine qui n'est pas vraiment défendable en ce qui concerne la Bible, qui n'est pas vraiment prouvée par la Bible, comment se fait-il que cette doctrine-là soit si généralement acceptée? C'est de cela vraiment que je vais vous parler aujourd'hui. Dans cette Bible-là, dans la préface que j'avais lue, l'une des preuves essentielles que l'on donnait, c'était que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit enseigne, que le Saint-Esprit prophétise, que le Saint-Esprit fait des miracles. Et c'est vrai, dans la Bible, on trouve ces choses-là. Et que le Saint-Esprit confère des dons, et qu'il sonde le cœur. Tout ça, c'est valable, tout ça, c'est juste. Mais tout ça ne prouve pas que le Saint-Esprit est une personne, ou bien un individu. Parce que l'Esprit peut parler, l'Esprit peut interpréter, l'Esprit peut sonder. Alors, comment faire la différence? Pouvez-vous vraiment, vous, qui êtes membre de l'Église de Dieu, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, réfuter ces arguments et prouver que tout ce qu'on dit en ce qui concerne les preuves, ce ne sont pas des preuves du tout. Voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles on pense que le Saint-Esprit est une personne, ou bien, j'aime pas le mot personne lorsqu'il s'agit de Dieu, mais un être, un troisième être, c'est que dans les Bibles, par exemple, prenez la Bible française, le mot parakletos a été traduit en français par consolateur. Eh bien, un consolateur, c'est un être, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'un consolateur, qui est la traduction de parakletos, nécessairement est un troisième être, une troisième personne. Non. Voyez-vous, ce sont des petits détails comme ça qu'il faut examiner, qu'il faut regarder, qu'il faut prouver, et en même temps, pour être sûr que on n'a pas l'esprit étroit, que l'on puisse vraiment prouver qu'on ne joue pas avec les mots. L'une des choses les plus difficiles, c'est que, voyez-vous, lorsqu'on parle en français, par exemple, nous avons le masculin et le féminin. En français, il n'y a pas de genre neutre. Et vous savez quoi? C'est la même chose en ce qui concerne le grec. Donc, parakletos peut être traduit par « il », elle à la rigueur, ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas de neutre en français. Tandis qu'il y en a en anglais, en allemand. Donc, lorsqu'on prend ce mot, et ensuite on s'y réfère comme « il », on prend cet argument comme si c'était vraiment valable. Eh bien, le consolateur étant un mot, un masculin, on s'y réfère par « il ». Mais ce n'est pas dit que c'est parce qu'on dit « il » plus tard dans la Bible qu'il s'agit là d'une personne. Vous savez, en français c'est étrange si vous voulez, parce qu'on se réfère à une table en disant « elle ». On se réfère à une cravate en disant « elle ». On se réfère à un tableau en disant « il ». Bon, ça fait un peu drôle, d'accord. Tandis qu'il y a des langues, comme par exemple l'allemand que je cite, il y a un neutre. En anglais, en allemand, on parle de neutre qu'on ne peut pas traduire en français, ou bien on traduirait par un « il » ou par un « elle ». Une fois que vous comprenez ceci, alors vous aurez une meilleure idée de ce que c'est que ce mot grec-là, « parakletos », qui a été traduit par, mettons, « consolateur », « avocat », je ne sais quoi d'autre. Alors, si vous prenez la Bible française, et vous vous appuyez à cet argument comme quoi, parce qu'on dit « il » pour le Saint-Esprit, ça doit être une personne, là, vous avez déjà un mauvais départ. Vous savez, ce qui est drôle, ce qui est étrange, je dirais, dans le christianisme, presque, je ne peux pas dire la moitié, mais il y a énormément de doctrines qui ne sont pas vraiment chrétiennes. Il y a des doctrines, des traditions qui étaient déjà observées avant la naissance du christianisme. Par exemple, la naissance du Christ était observée avant la naissance du Christ même, par les païens, par des traditions analogues à celles que nous avons aujourd'hui. De même, considérez les Pâques, dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques existait déjà dans le paganisme avant la résurrection du Christ. Là encore, voyez-vous, lorsque vous examinez ces choses, vous pouvez voir que le christianisme moderne a été mêlé à beaucoup de traditions qui étaient auparavant païennes. Ou encore, prenez par exemple la doctrine de l'immortalité, dont je parlerai un peu plus loin si j'ai le temps. Non, ce sont des choses qui étaient déjà observées par des croyances qui n'étaient pas à l'époque et qui ne sont toujours pas chrétiennes. De même, voyez-vous, la Trinité, troisième personne, troisième être, troisième individu, troisième être dans la divinité. Mais où trouvez-vous cela dans la Bible? Dans la Bible, il n'y a pas de référence en ce qui concerne la troisième personne, ou bien la Trinité, ou bien le Saint-Esprit. C'est toujours attribué, c'est toujours appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint, très saint. Le Saint-Esprit est aussi saint que Dieu le Père. Il est tout aussi saint que le Christ, le Fils de Dieu. C'est normal parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. C'est l'Esprit qui les unit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très, très saint. Voilà pourquoi le Christ a dit que si on pêche contre le Saint-Esprit, ça sera le péché impardonnable. Voyez-vous, dans ce sermon, je ne minimise pas l'importance du Saint-Esprit. Alors, comment prouver vraiment par la Bible et dans la Bible et de façon absolument certaine, comment prouver que le Saint-Esprit n'est pas un troisième être dans la famille divine? Que la famille divine, réellement parlant, d'après la Bible, se compose de Dieu le Père, se compose du Christ, le Fils de Dieu, et que l'Esprit qui les unit, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'ils sont un, comme le Christ l'a dit plus tard, et nous le verrons dans quelques instants. Alors, commençons, je tâcherai de faire aussi simple que possible, afin que vous puissiez trouver, une fois pour toutes, les arguments nécessaires dans votre esprit, et que vous puissiez être vraiment sûr. Et je répète, ce n'est pas une question de minimiser l'importance du Saint-Esprit. Au contraire, c'est de mettre la valeur sur l'importance du Saint-Esprit, car il s'agit de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de l'Esprit du Christ. Commençons par Jean 14, verset 26. Ici, le Christ parle et on peut voir qu'il fait déjà allusion au Saint-Esprit en l'appelant le Consolateur. Il parle de son départ, de sa résurrection. Il dit, mais le Consolateur, Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, voyez-vous, déjà il définit ce que c'est que le Consolateur. Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Et vous enseignera toutes choses. Certainement, vous enseignera, c'est l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin d'être ici une personne, un individu, un troisième être, pour dire que, voyez-vous, c'est un être troisième individu, puisqu'il va enseigner. Non, l'Esprit de Dieu enseigne. L'Esprit du Christ enseigne. Donc, l'Esprit Saint, le Consolateur, enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le mot consolateur, je répète, a été traduit ici par ce mot grec, parakletos, qui est utilisé dans la Bible française. Alors, lorsqu'on s'y réfère, on dit nécessairement en français « il », parce que c'est un mot masculin en français. On ne peut pas trop traduire le neutre. Continuons. Le Consolateur, ici, est désigné, vous pouvez voir très clairement, par le Saint-Esprit. Donc, les deux sont un. Continuons encore. Jean 16, verset 7. « Cependant, dit le Christ, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, ça répète encore Consolateur, ne viendra pas. Mais dit-il, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Est-ce que le Christ a-t-il envoyé quelqu'un? Non. Si. Tout dépend de ce que vous appelez par quelqu'un. Après le départ du Christ, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Il a dit, attendez donc que moi, je vous envoie le Saint-Esprit par lequel vous serez engendrés. Ou bien vous serez... Plus tard, nous verrons, c'est par le Saint-Esprit que les apôtres, et aujourd'hui encore, que les gens ont reçu la force de devenir chrétiens. Mais ça, c'est une autre question. Alors, il dit, Jean 16, verset 7, « Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, dit-il, le Consolateur ne viendra pas, et si je m'en vais, dit-il, je vous l'enverrai. » Ce sont des phrases qui se répètent, et à chaque fois, lorsque vous lisez ces choses, ayez en tête que toutes les autres Bibles, quelle que soit la traduction, font allusion à un esprit, à un Consolateur, si vous voulez, qui est appelé parfois par d'autres noms, mais qui, comme le Christ a défini, est désigné par le Christ même comme étant le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une troisième personne, d'un troisième être, il s'agit d'un esprit, et c'est l'Esprit de Dieu. Jean 16, versets 12 à 15, c'est toujours le Christ qui parle. « J'ai encore, dit-il, beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, il y a toujours du Saint-Esprit, sera venu l'Esprit de vérité. » Voyez-vous, voilà. Tout d'un coup, dans la phrase même, le Christ définit ce que c'est que le Consolateur. Il dit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, il, parce qu'on ne peut pas traduire, il n'y a pas de neutre en français, mais c'est toujours ce Consolateur qui est l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est vrai, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ qui nous conduit dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, non. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est toujours le Saint-Esprit, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Qu'est-ce qui glorifie le Christ? C'est Dieu le Père, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui rend le Christ saint. C'est l'Esprit Saint qui rend Dieu le Père saint. Autrement dit, c'est leur esprit. Ils sont unis par le Saint-Esprit. Il me glorifiera, dit-il, verset 14, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Toute la Bible, c'est ça. Lorsque vous lisez la Bible, ce sont des choses que le Saint-Esprit se manifeste par des paroles, par des enseignements. C'est cela l'importance, c'est cela la puissance, c'est soit l'existence même réelle du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Dieu n'existerait pas. Le Saint-Esprit est la nature, le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. Une fois que vous avez en tête ceci, vous verrez que chaque fois qu'il est question dans la Bible du Saint-Esprit, il s'agit de la puissance de Dieu. Il s'agit de l'Esprit de Dieu et du Christ. Alors, verset 15, Jean 16. « Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi dit-il, j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Le « il », c'est toujours le Saint-Esprit. Voyez-vous, dans tous les versets, je répète, il est question d'un pronom, il en français, parce qu'il n'y a pas de neutre en français, mais dans les autres traductions de l'allemand, par exemple, ou de l'anglais, on peut dire le pronom neutre si l'on comprend le texte. Mais malheureusement, on ne comprend pas toujours le texte, alors il peut être le cas que certaines Bibles anglaises ou allemandes se servent aussi du masculin alors qu'ils auraient dû se servir du pronom neutre, je sais. Mais partout dans ces versets, je répète, il y a toujours question de la nature divine, de l'Esprit de Dieu. Il est intéressant de noter que l'apôtre Jean est le seul apôtre qui parle du Paracletos. Autrement dit, c'est lui seul qui parle de cette existence, de cet Esprit-là, qui est manifesté partout ailleurs dans la Bible. Mais puisque l'apôtre Jean parle de cela, et qu'on a traduit par consolateur, mettons, et par le genre masculin, alors c'est ça qui rend la compréhension difficile. En grec, voyez-vous, il n'y a pas de neutre. En grec, ce mot est aussi appelé par un « il », par le pronom « il », mais le fait est que cette compréhension, la Bible grecque, est très clair à ce sujet, et que nous-mêmes, si nous prenons le temps de comprendre, nous verrons que le Consolateur a été toujours traduit ou bien rendu clair par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Eh bien, voyez-vous, si on dit que le Saint-Esprit doit être un individu ou bien troisième être, puisqu'il parle, puisqu'il enseigne, mais ce n'est pas un argument valable. Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, certainement peut enseigner, enseigne, peut parler, parle, ainsi de suite. La Bible dit même qu'on peut chagriner le Saint-Esprit. Mais c'est normal. On peut chagriner Dieu, on peut chagriner le Christ, on peut les attrister. Une fois encore, là, ce sont des arguments qui ne sont pas valables pour prouver que le Saint-Esprit est une troisième personne ou bien un troisième être. J'aime pas l'idée de dire troisième personne parce que, franchement parlant, le mot personne est attribué aux êtres humains. Le fait est que l'Esprit de Dieu, c'est esprit. La nature divine, c'est spirituel. Tout ce qu'on trouve en ce qui concerne référence, comme référence au Christ Et à Dieu le Père, c'est toujours spirituel. Le Saint-Esprit, je répète, est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. Une fois que vous comprenez ceci, vous pouvez toujours être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Notez encore ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 63, verset 10. Dieu parle ici et il parle des hommes. Il parle ici des hommes qu'il a créés, certes, mais aussi de la première nation qu'il a appelée à la vérité. Il dit, mais ils ont été rebelles. Voyez-vous, les Israélites que Dieu a appelés ont été rebelles. Et pourtant, les Israélites avaient l'occasion de comprendre ce que je vous dis maintenant, bien qu'à cette époque-là, l'Esprit de Dieu n'était pas encore donné aux hommes. Mais Dieu dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Voyez-vous, on peut attrister l'Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il s'agit du Saint-Esprit. Il a combattu contre eux. Notez encore que ici, le Christ parle d'un péché qui peut être impardonnable. Je dis, lorsqu'on pêche contre quelqu'un, c'est pardonnable. Mais lorsqu'on pêche contre Dieu, et ça sera donc contre le Saint-Esprit, ça sera le péché impardonnable si le péché commis est absolument voulu, délibéré, et d'une façon générale, dont on ne peut pas se détourner, se repentir. Notez-le. Matthieu chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi le Christ a dit, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Mais dit-il, le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Pourquoi ? Parce que l'Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit du Christ. Voilà pourquoi vous péchez contre la divinité. Commencez-vous à comprendre. Lorsque vous avez l'esprit ouvert, tout cela devient clair. Tout cela, on peut l'expliquer facilement. Regardez encore dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Je tâche d'expliquer d'une façon de rendre le sujet clair. On parle maintenant du péché impardonnable. Regardez ce qui est dit dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible, le mot impossible signifie bien impossible, il est impossible, dit-il, que ceux qui ont été une fois éclairés, éclairés comment? Vous ne pouvez pas être éclairés à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, lorsque Dieu nous appelle et nous faisons notre part, nous recevons le Saint-Esprit, donc nous sommes éclairés. Alors, Paul dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. C'est quoi le don céleste? Les avantages que l'on reçoit en observant les commandements de Dieu, les bénédictions divines que nous recevons, et nous avons vraiment la compréhension pourquoi nous sommes nés et qui va se passer. Donc, nous avons goûté ce don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut avoir part au Saint-Esprit? C'est une question d'individu, non. On a part au Saint-Esprit car il s'agit de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de l'Esprit du Christ. Donc, si nous avons goûté ceci et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, verset 5, Hébreux 6, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Autrement dit, par le Saint-Esprit, Dieu vous révèle pourquoi vous êtes né et ce qui va se passer. Donc, Paul dit, il est impossible que ces gens-là qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. C'est une question de péché contre l'Esprit de Dieu, contre l'Esprit du Christ. C'est impossible, il ne peut pas revenir à la repentance réelle. Voyez-vous, si vous étudiez la Bible, vous pouvez voir que le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ, nous enseigne le convainc, nous explique. Tout ça par son esprit qui est saint. Donc ne soyez pas étonnés, comme certaines Bibles françaises prétendent, que le Saint-Esprit doit être un troisième être dans la divinité, puisqu'il parle, puisqu'il enseigne, etc. Ce sont des excuses qui ne sont pas valables. À travers la Bible, nous pouvons facilement constater que Dieu le Père est le Saint-Esprit, est le Christ. Tout ça, ça, c'est une unité parfaite. Dieu est uni au Christ, son Fils. Cette unité, c'est par le Saint-Esprit. Leur Esprit Saint les unit, qui les rend ce qu'ils sont. C'est le Saint-Esprit, voyez-vous, que le Christ a employé lorsqu'il a expliqué ce qui unit lui-même avec Dieu le Père. Notez-le. Parce que ça, c'est intéressant. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas unité absolue entre Dieu le Père et le Christ. Jean 17, c'est la dernière prière que le Christ a faite en présence de ses apôtres. Et dans cette prière, notez comment lui, le Christ, définit le Saint-Esprit. Il dit, verset 20, Jean 17, verset 23, « Ce n'est pas, dit-il, pour eux, c'est-à-dire aux apôtres qui étaient avec le Christ à ce moment-là, pour eux seulement que je prie, mais encore, dit-il, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, et moi. » Voyez-vous, cette unité, c'est par le Saint-Esprit. « Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » En nous comment ? Par le Saint-Esprit. « Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Voyez-vous, si vous comprenez le but de la création, alors le tout vient, semble clair. Mais si vous prenez les choses un peu de travers, et si vous prétendez ce qui n'est pas biblique, dans ce cas-là, c'est la confusion. Il dit, verset 21, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Certes, Dieu le Père a glorifié son Fils, afin qu'il soit un comme nous sommes un. » Comment sont-ils un, Dieu le Père et le Christ? Ils sont un par le Saint-Esprit. « Je leur ai donné, dit-il, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » C'est ce mot « parfaitement » qui rend les choses très claires, parce que un jour, mes frères et mes sœurs, nous serons tout à fait unis au Christ et au Père par le Saint-Esprit. Nous serons les enfants de Dieu. Et que le monde connaisse, dit-il, que tu m'as envoyé, que tu les as aimés et que tu m'as aimé. Alors, je répète, je prends ce verset afin que vous puissiez comprendre que partout dans les sermons que le Christ a fait, dans les déclarations qu'il a faites concernant le Saint-Esprit, il s'agit toujours de l'Esprit de Dieu qui les unit. Il y a une unité parfaite entre Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ. Je dis bien unité parfaite. On ne peut pas les séparer. Voilà pourquoi il y a un seul Dieu, mais ce Dieu est, se manifeste par la puissance du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la divinité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. La seule façon de comprendre, je répète, ces choses bibliques, les vérités bibliques, n'importe quelle vérité, c'est de ne pas prendre un seul verset hors de son contexte, mais prendre un sujet quelconque en comparant avec d'autres passages qui se réfèrent au même sujet. Donc, si vous prenez toutes les paroles qui sont dites, tous les enseignements qui sont donnés concernant le Saint-Esprit, vous n'aurez aucun doute dans votre esprit comme quoi le Saint-Esprit n'est pas un troisième individu. Mais il faut les mettre ensemble. C'est malheureusement ce que les gens ne font pas. Prenez l'exemple du paradis. Alors, les chrétiens aujourd'hui croient au paradis, mais ce paradis dont ils croient est-ce vraiment biblique? Les chrétiens croient en l'enfer, on parle d'enfer. Mais cet enfer, comme ils croient, est-il l'enfer que la Bible décrit? Là encore, il y a des confusions parce que ce sont des paroles que les gens ont entendues, que nous y croyons en principe, sans les définir. La doctrine de l'immortalité de l'âme, par exemple, je viens de vous dire, ce n'est pas biblique. Ce serait biblique si vous tirez un verset hors de son contexte et vous y établissez dans ce verset que vous avez tiré hors contexte votre propre doctrine. Aujourd'hui, la plupart du temps, les chrétiens ne croient plus à ce qu'est le péché. On pêche et après on s'excuse. On pêche et on se repent chacun à sa façon. Le péché, d'après la Bible, est la transgression des lois divines. Voilà ce dont il est question, voyez-vous. Une fois que vous comprenez cette vérité essentielle, vous comprendrez la vérité concernant l'enfer, le paradis, le Saint-Esprit, si vous voulez, ou encore ce qu'on appelle l'âme immortelle. Un jour, je me rappelle, j'ai dit à quelqu'un que vous ne trouverez pas dans la Bible le mot immortel concernant l'être humain. Et ne croyez pas, mais voyez-vous, faites-le. Nulle part dans la Bible n'est marqué que nous avons une âme immortelle. Au contraire, la Bible déclare vraiment et franchement que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Notez-le. Ézéchiel, chapitre 18, versets 4 et 20. Dieu déclare, « Voici, toutes les âmes sont à moi. » C'est Dieu qui parle. « L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. » Certes, parce que tout est à Dieu. Et il dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Vous avez bien entendu. L'âme qui pêche, là encore, l'âme, ce n'est pas quelque chose d'autre que nous sommes. Autrement dit, tout être humain qui pêche, mourra en moins de se repentir. Si moi, je peux mourir, mon âme peut mourir, dans ce cas-là, mon âme n'est pas immortelle. De même, au verset 20, ça se répète, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ça prouve ici la justice divine, la bonté divine. Je ne suis pas coupable des péchés que vous commettez. Vous n'êtes pas coupable des péchés que je commets. Mais d'autre part, Dieu ne va pas vous imputer mes fautes ou m'imputer vos fautes, ainsi de suite. Chacun payera pour ses propres fautes. Là encore, ceci s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés. Sanctifiés signifie lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, après le baptême, après nous être repentis de nos péchés, et que nous commençons à vivre d'après la volonté de Dieu, en mettant en pratique ses commandements, en vivant d'après toute parole qui sort de sa bouche. Ce faisant, nous sommes sanctifiés. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés, que nous pouvons nous soumettre à la volonté de Dieu. Là encore, si je n'ai pas la puissance du Saint-Esprit en moi, après avoir reçu le Saint-Esprit, je ne peux pas avoir cette volonté, ou bien avoir cette force, parce que moi-même, je ne peux pas le faire. Il me faut une force surhumaine. La force du Saint-Esprit qui me contrôlera, qui me donnera la force de pouvoir respecter ce que Dieu me demande de faire, à vous et à moi. Cet Esprit de Dieu, je répéterai parce que je ne peux pas faire autrement, c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit avec le Christ, avec Dieu le Père. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette force d'être vraiment chrétien, d'être sanctifié. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans ses épîtres. Il a écrit 14 épîtres. Dans chacune de ces épîtres, l'apôtre Paul parle, d'une façon ou d'une autre, de la puissance du Saint-Esprit et de l'influence du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre conversion et dans l'unité. Notez par exemple dans Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6. Paul dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Il n'y a pas deux ou trois espérances. Il n'y a qu'une seule espérance véritable. C'est notre espérance d'être un jour unis au Père, unis au Christ, et en former une seule famille. C'est ça le but de la vie. Une seule espérance, pas votre vocation, ça c'est notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, voyez-vous, tout ça c'est uni par la force du Saint-Esprit. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Comment Dieu peut être en moi? Par le Saint-Esprit. Comment Dieu peut me sauver? Par le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Je répète, ce sujet est assez vaste pour pouvoir entrer dans tous les détails, mais une fois que vous avez compris la base, alors vous pouvez voir pourquoi je répète toujours la même chose ici dans ce sermon, mais nous revenons toujours au même point de départ. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et ces deux sont unis par le Saint-Esprit qui est leur esprit. Leur esprit peut tout faire. Parler, enseigner, châtier, tout ce que vous voulez. On n'a pas besoin d'être un troisième être pour pouvoir agir comme Dieu le Père et comme le Christ agissent. Comprenez-vous cela? Laissez-moi vous donner encore quelques exemples qui sont peut-être plus faciles à prouver. Je vous ai dit toujours, et je répète, avant la mort et la résurrection du Christ, les gens, d'une façon générale, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est un esprit qu'on reçoit, voyez-vous, ce n'est pas un être. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'ils l'ont reçu? Certes, certains avaient reçu par le don divin, même dans l'Ancien Testament, mais le fait est que le Saint-Esprit a été donné après la mort et la résurrection du Christ, le jour de la Pentecôte. Notez Actes chapitre 1, verset 8. Le Christ était en train de monter au ciel, a dit, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Là encore, c'est clair. Il dit, « Vous recevrez après ma résurrection une puissance, le Saint-Esprit. » Voilà. Encore c'est défini, l'esprit de vérité, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est ce qui s'est passé. Dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes maintenant arrivés à ce point-là. Voilà pourquoi je vous parle ici à vous en tant que membre de l'Église. Je parle à la radio, ou bien l'Église de Dieu parle à travers la télévision, et aussi par tous les moyens possibles, Internet, tout ça, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir diffuser cette vérité qui est absolument nécessaire pour que le Christ revienne. Voyez-vous, le Christ agit par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ qui nous unit à cette vérité, qui nous révèle cette vérité. Nous, en tant que ministres de Dieu, c'est notre devoir de proclamer ceci, et surtout au sein de l'Église, afin que vous puissiez vous-même comprendre et vous défendre lorsque les gens parlent en disant « Écoutez, le Saint-Esprit est une troisième personne » ou bien « Il y a une trinité dans la Bible ». Non, il n'y a pas de trinité. Pas dans le sens que les gens entendent d'une façon générale. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de sagesse. Voyez encore une autre preuve absolue. Le Christ, avant sa mort et sa résurrection, a déclaré clairement que les disciples recevraient le Saint-Esprit, une fois qu'il serait donc lui-même mort et ressuscité. Notez-le. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, dit-il, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Notez-le. Comment pouvez-vous vraiment souffler sur quelqu'un et que ce quelqu'un reçoit le Saint-Esprit si le Saint-Esprit était une troisième personne ou troisième être? C'est une puissance. L'une des règles absolues, je répète, pour comprendre toute chose dans la Bible, ne sortez pas un verset et ne fondez pas sur ce verset une doctrine. Ou bien croire à une doctrine qui a été inventée et qui n'est pas conforme au reste de la Bible. Je répète, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre tout cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la vérité en ce qui concerne la raison de vivre, le but de la vie. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas les attributs divins. Par exemple, Galates chapitre 5. Vous savez ce que c'est que Galates chapitre 5, verset 22? Là, vous pouvez voir les fruits qui sont produits par le Saint-Esprit. Autrement dit, par l'Esprit de Dieu. Laissez-moi le citer. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit. Voilà, le fruit du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà des qualités divines. Et ces qualités divines nous sont accordées, nous sont données par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons fait notre part, lorsque nous comprenons ces choses, nous nous faisons baptiser, nous nous repentons certes de nos péchés, et nous sommes décidés à suivre la voie, à ce moment-là, par l'imposition des mains, après le baptême, par immersion, nous recevons le don du Saint-Esprit. C'est cet Esprit en nous qui produit ces fruits. C'est cet Esprit en nous qui nous montre la voie à suivre pour aller jusqu'au bout. C'est cet Esprit en nous qui un jour nous rendra fils ou fille ou enfant de Dieu. C'est ça, voyez-vous, c'est simple. La puissance de Dieu se manifeste en nous par son Saint-Esprit. Si vous avez confiance en cela, mes frères et mes sœurs, si vous comprenez cette vérité absolue, vous comprendrez que Satan voudrait faire tout ce qu'il peut pour empêcher cette compréhension. Car c'est cette compréhension que Satan voudrait absolument voiler, ou absolument cacher. Voilà pourquoi il y a tellement de confusion, ou plutôt je dirais, voilà pourquoi il a fait de sorte que les chrétiens, d'une façon générale, s'accordent pour ce qui est de la Trinité, alors que la Trinité n'est même pas bibliquement prouvable. Commencez-vous à comprendre? Le Saint-Esprit nous donne la confiance absolue en Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de marcher dans la voie divine, quelles que soient les circonstances. Le Saint-Esprit nous permet de vaincre les tentations de Satan le diable. C'est par le Saint-Esprit que nous arriverons un jour, je répète, à entrer dans le royaume de Dieu. Quelles que soient les circonstances, ayez cette compréhension, ayez cette confiance, ayez cette absolue, je dirais, ferme, ayez cette force de croire que le Christ vous aime, que le Christ voudrait que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Et le Christ fera tout ce qu'il peut, lui. Et il peut tout faire, mais qu'il puisse vous faire de sorte que vous puissiez vous-même changer, vaincre les doutes, vaincre les tentations. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas humain. Je ne plaisante pas. Autrement dit, nous autres humains, nous avons peur, nous avons des craintes, nous avons des doutes. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la force divine, une force qui contrôle tout l'univers. Notez ce qui est écrit dans Deutimothée chapitre 1, versets 6 à 7. Paul écrit sous l'inspiration divine, c'est pourquoi dit-il, je t'exhorte, il parle à Timothée, à ranimer le don de Dieu. Voilà, le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu as reçu par l'imposition des mains. On ne peut pas être plus clair. Après le repentir, après l'imposition des mains, après, certes, le baptême par immersion, nous recevons le don de Dieu. C'est le don, le Saint-Esprit même. Il dit, ce n'est pas, maintenant on parle de quoi, de qui? On parle du don, on parle du Saint-Esprit, on parle de la puissance, on parle de l'Esprit de vérité. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité. Regardez voir ça. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit, quoi, de force, d'amour et de sagesse. Si vous avez vraiment la force réelle, si vous avez vraiment l'amour divin réel, si vous avez vraiment de la sagesse, je ne parle pas d'intelligence humaine, la sagesse réelle qui vient de Dieu, vous avez donc cette force, la force du Saint-Esprit, donc cet esprit dans lequel il n'y a pas de timidité. Laissons maintenant, pour conclure le tout, par deux ou trois autres exemples. Si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit et comment vraiment comprendre pourquoi le Christ ne peut pas être le Fils du Saint-Esprit, parce que si vraiment le Christ qui a été né par le Père, le Saint-Esprit ne peut pas être une troisième être. Notez-le. Parce que ça, je me rappelle, j'étais une fois lors d'une conférence publique, je parlais justement de l'Esprit de Dieu, et la personne qui m'a interviewé m'a dit, écoutez, monsieur Appartient, vous, dans votre église, vous croyez que le Saint-Esprit est une troisième personne? Je dis non. Il dit, ah, alors, vous n'êtes pas dans la vérité, parce que la Bible parle de la Trinité. Je dis, montrez-moi. On ne peut pas montrer. Et moi, je lui ai dit, écoutez, si vraiment le Saint-Esprit était un esprit différent, ou bien le Saint-Esprit était un individu, dans ce cas-là, le Christ aurait pour Père, non pas Dieu le Père, mais le Saint-Esprit. Il était choqué. Alors, laissez-moi vous le citer. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21. Matthieu écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph et se trouva enceinte par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Avant même qu'ils eussent habité ensemble. Voyez-vous, il est question ici du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas être diffamé parce que ça serait un péché que Marie aurait commis, alors se proposa de rompre secrètement avec elle pour la protéger. Comme il y pensait, voici un ange de Dieu lui apparut, verset 20, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car l'enfant qu'elle a conçu, notez bien, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Si Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, il aurait donc pour Père le Saint-Esprit et non pas le Père, Dieu le Père. » Je déclarais ça, voyez-vous, lors de cette interview, la personne a voulu couper notre conversation courte. Il ne voulait pas continuer. Mais si, continuons, parce que c'est ça. Si le Saint-Esprit est une troisième être, dans ce cas-là, le Christ aurait pour Père le Saint-Esprit. Et nulle part dans la Bible, vous ne trouverez une telle déclaration. Le Christ a toujours dit, a toujours parlé de son Père, de Dieu le Père, en tant que son Père, et non pas le Saint-Esprit, pour ainsi dire. Revenons à Actes chapitre 2, verset 36. Actes 2, 36-38. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait le Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ici, il est question, l'apôtre Pierre parle de l'identité du Christ. Et après avoir, verset 37, entendu ce discours, les gens eurent le cœur vivement touché. C'est qu'on vous et moi, lorsque nous avons entendu et compris la vérité, nous avons notre cœur touché. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, dans ce cas-là, que devons-nous faire? Verset 37, verset 38, Pierre dit, repentez-vous. C'est ce que j'ai cité dans ce sermon aujourd'hui. Se repentir, c'est se détourner du péché. Ce n'est pas répéter le péché. Donc, si nous voulons vraiment comprendre et recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit des forces, l'Esprit du courage, si nous voulons recevoir cet Esprit, nous devons, nous, repentir. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est ce que nous avons fait dans l'Église de Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une fois encore, c'est marqué clairement le don du Saint-Esprit, que j'ai cité comme amour, paix, etc. Le Saint-Esprit est défini ici comme un don. Ailleurs, c'est défini comme une puissance. Ailleurs, c'est défini encore comme l'Esprit de vérité. Voilà des vérités qui sont valables parce qu'elles sont données dans la Bible. Dans chacune des épîtres que l'apôtre Paul a écrites, il y en a 14, il parle de Dieu le Père. Il parle du Fils. Et pourtant, il ne fait pas allusion à ce qui concerne sa salutation au Saint-Esprit. N'est-ce pas étrange? Comment l'apôtre Paul, un vrai apôtre du Christ, peut parler aux chrétiens et peut parler de Dieu le Père, peut leur parler du Fils, de Jésus-Christ, et mettre de côté, mentionner même pas le Saint-Esprit? Notez par exemple 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Autrement dit, ça c'est partout dans les 14 épîtres qu'il a écrites, partout il parle de Dieu le Père, il parle du Christ, il les salue pour ainsi dire en leur nom, et pourtant il ne fait pas allusion au Saint-Esprit. Notez-le, 1 Corinthiens 1, verset 3, « Que la grâce et la puissance vous soient données, grâce et la puissance en la force, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi Paul ne mentionne-t-il pas le Saint-Esprit ici? Si le Saint-Esprit était un troisième être dans la divinité, Paul ne pourrait pas le laisser de côté. Là encore, c'est logique. Galates, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la puissance, que la grâce et la paix vous soient données. Bon, nous savons ce que c'est que la grâce. Nous savons ce que c'est que la puissance. Nous savons ce que c'est que la paix. Mais alors, de quoi est-ce qu'on parle? Il dit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Point. Une fois encore, pourquoi ne parle-t-il pas du Saint-Esprit si le Saint-Esprit était un troisième être dans la divinité? Voyez-vous, ce sont des preuves valables. On n'a pas douté, l'apôtre Paul aurait parlé du Saint-Esprit si le Saint-Esprit était un troisième être dans la divinité. Faites des recherches, mes frères et mes sœurs. Faites des recherches dans la Bible. Cherchez. Nulle part vous ne trouverez une allusion quelconque comme quoi le Saint-Esprit est un troisième être. Par contre, vous trouverez des déclarations claires comme quoi c'est une puissance, c'est un esprit, c'est l'esprit de vérité, de force, etc. Alors, je répète, le Christ a pour Père Dieu le Père. Mais le Christ a reçu, je dirais, cette naissance même par le Saint-Esprit Et pourtant, il avait lui pour Père, Dieu le Père, et non pas le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit qu'il a été conçu. Commencez-vous à comprendre. Commencez-vous à comprendre comment vraiment vous défendre si des gens vous disent, écoutez, le Saint-Esprit est une troisième personne. Une chose est certaine, frères et sœurs, nous autres dans l'Église de Dieu, nous devons faire des recherches. Nous devons prouver toutes choses. Nous devons en toutes choses chercher à comprendre pourquoi Dieu a caché parfois cette vérité en ce siècle-ci. Eh bien, je vous dirai pourquoi. Aujourd'hui, Satan est encore le maître de ce monde, par la connaissance et permission de Dieu. Dieu a permis à Satan, aujourd'hui, de séduire les gens. Et Dieu a dit aussi, comme nous avons vu, que si nous péchons volontairement après avoir compris cette vérité, il n'y a plus de pardon pour nous autres. Voilà pourquoi, puisque le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas accordé à tous, Dieu a caché ses vérités. Dieu a caché ses vérités de façon que nous ne péchions pas volontairement. Une fois que vous comprenez cette vérité, vous comprendrez pourquoi la plupart des gens aujourd'hui, la plupart des chrétiens, sont confus. Parce que s'ils comprenaient cette vérité, et s'ils continuaient à vivre dans le péché, ou répéter le péché, ils commettraient le péché impardonnable. Et je viens de vous citer que lorsque vous citez le péché impardonnable, il n'y a pas d'espoir pour vous. Dieu est bon, Dieu est juste. Il nous défend, il nous protège. Il nous protège de façon à ce que nous ne tombions pas dans les mains de Satan le diable. Satan veut tout détruire. Dieu veut tout construire. Satan veut que nous ne comprenions pas la vérité. Dieu veut que nous puissions non pas seulement comprendre la vérité, et aussi vivre dans sa famille divine. C'est cette lutte, pour ainsi dire. Ce n'est pas une lutte. Dieu a permis ceci. Mais c'est cette vérité-là qui nous permet de comprendre la vérité et de faire confiance en Dieu. Voyez-vous, une chose est certaine. Vous-même, avant d'avoir cette explication, je ne parle pas maintenant si vous êtes dans l'Église, mais avant même d'être membre de l'Église, vous ne compreniez pas ces choses. Vous ne saviez pas pourquoi vous êtes né. Vous ne saviez pas pourquoi le Christ est venu. Il est venu pour payer la mort de nos péchés, certes. Il est venu pour nous révéler Dieu le Père, certes. Il est aussi venu pour nous faire comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit. Parce que c'est après sa mort et sa résurrection que nous autres humains nous pouvons recevoir et que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit de force, et non pas de timidité, par lequel nous pouvons avancer. Donc, nous autres, membres de l'Église de Dieu, et vous tous qui m'écoutez, n'ayez jamais peur, ne craignez pas l'adversité. L'adversité qui vient du diable. Ayez ce courage, ayez cette force, ayez cette, je dirais, absolue compréhension que Dieu est pour vous, que Dieu vous protège par son Saint-Esprit, que Dieu vous enseigne par son Saint-Esprit, que Dieu vous révèle la compréhension de la Bible par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est la force même de Dieu. Le Saint-Esprit est le caractère de Dieu. Autrement dit, tout ce que Dieu est, c'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi saint que Dieu lui-même, que le Christ lui-même, puisque c'est l'Esprit divin qui les unit. Soyez reconnaissants à Dieu de ce que vous avez cette compréhension. Remerciez Dieu de ce que vous pouvez comprendre ceci. Ne vous plaignez jamais. Ne dites pas, oh, moi je ne peux rien faire. Non, vous ne pouvez rien faire, c'est vrai, mais vous pouvez faire tout par la force du Saint-Esprit. Du fait même que vous êtes dans l'Église de Dieu, du fait même que vous avez reçu le baptême, que vous avez reçu l'imposition des mains, ou que vous vous êtes repenti des péchés, du fait même que vous êtes membre de l'Église de Dieu et que vous avez le Saint-Esprit en vous, qui vous permet de croître, d'avancer, de mûrir, de devenir parfait. Cela doit vous donner le courage d'aller de l'avant, d'être reconnaissant à Dieu, d'être absolument sûr et certain que Dieu vous protégera jusqu'à la fin par la force de son Saint-Esprit.